aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va conclure le Perek Membet, le chapitre 32, le chapitre 42, et on va démarrer le chapitre 43. Et Bezrat Hashem, on essaiera de finir, au moins en grande partie, le chapitre 43 pour la fin du mois de juillet, donc on pourra avoir un résumé, puisque le chapitre 41, 42, 43, c'est une suite, c'est une série qui parle de Avaraba, qui parle de la petite crainte, la grande crainte, le grand amour et le petit amour. Donc là, pour l'instant, on s'est focalisé sur la crainte à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à la crainte à Kadosh Baruch Hu, les enfants? Là, c'est le cours. Qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à la crainte à Kadosh Baruch Hu? On a expliqué qu'en vérité, on a ramené la Gemara qui dit que on considère que la Yirat Hashem, c'est quelque chose de petit, c'est quelque chose de facile. On a posé la question, on a dit, est-ce que la Yirat Hashem, c'est quelque chose de facile? Et on avait répondu que par rapport à Moshe Rabbeinu, les Gabé Moshe, par rapport à Moshe, c'est considéré comme quelque chose de petit. Alors on a posé la question, on a dit, mais qu'est-ce que ça nous change si par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est facile? C'est là qu'on a expliqué pendant 3 cours d'affilée. On a expliqué l'importance de Da'at. Bon, Hashem, ceux qui ont pu aller chez le Rabbi, ils ont témoigné qu'ils ont ressenti ça. Mamash. D'accord? Voilà, ah oui, Mamash.
En tout cas, quand vous arrivez au 717, Mamash contre le Rabbi.
Alors, on a expliqué que c'est quoi le lien de Da'at, c'est quoi le concept de Da'at. Le concept de Da'at, c'est pas d'apprendre des choses nouvelles. On va pas venir forcément apprendre des choses nouvelles. C'est pas qu'on va apprendre des choses nouvelles, mais Da'at, ça veut dire qu'on va intérioriser la chose. Et ça, c'est en vérité le niveau de Ira. Une fois qu'on a intériorisé la chose, là, à ce moment-là, une fois qu'on a compris que c'est pas de la blague, que ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas de la blague, c'est là qu'à ce moment-là, tout est facile, tout devient facile. Ira Tachem, Ava Tachem, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, tout devient facile. Alors ensuite, on a expliqué, allez, on se lance dans le cours, après on dira les règles. Ensuite, on a expliqué qu'on a commencé à donner des techniques, comment faire pour arriver à la Ira Tachem. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que la personne, il faut réfléchir, que pourquoi on a du mal à avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Parce que, de manière générale, quand on a la crainte de quelque chose, nous on a besoin d'avoir le décor. On a besoin d'avoir un décor qui nous inspire la crainte. On a expliqué comme ça. On a expliqué que si on va analyser la crainte du policier, le fait qu'on a peur du policier, on va comprendre que on n'a pas peur de l'habit du policier. On n'a pas peur du vêtement du policier, mais on a peur plutôt de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ira n'est pas du décor, d'accord? La ira n'est pas du décor, mais la ira est plutôt de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, de la même manière, on a expliqué par rapport à Kadosh Baruch Hu, que même si on ne voit pas Kadosh Baruch Hu et on n'a pas le décor, alors dans la note, on avait expliqué qu'on avait quand même un peu le décor,
oui.
Parce qu'il y avait la nature. Mais bon, c'est pas par ça qu'on démarre. Tu vas aller chez papa? Il est là-bas. Papa, il est là-bas. D'accord? Donc on a expliqué que même si on n'a pas le décor, mais il faut savoir que ça change rien du tout. Puisqu'en vérité, de toutes les façons, quand on a peur du roi, on n'a pas peur du décor. On a peur du roi. Le décor, ça nous aide seulement à arriver à la crainte. De la même manière, il faut savoir que de la même manière, quand on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir la crainte de ce qu'il y a derrière, même si on ne voit pas Akadosh Baruch Hu, mais on sait que ce qui se cache derrière cette nature, tout ce qui se cache derrière, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a dit à ses élèves juste avant de partir. Il a dit que Dieu fasse que vous ayez la crainte de Dieu comme la crainte des hommes. En d'autres termes, que la crainte de Dieu soit quelque chose de réaliste. Que la crainte de Dieu soit quelque chose de date, comme vous avez la crainte des hommes. Donc on a compris que la clé pour avoir la crainte de Dieu, c'est le réalisme. Il faut s'habituer au fait que quand on nous parle de Dieu, c'est quelque chose de réaliste. C'est pas quelque chose qui est abstrait. Et une fois qu'on a réussi à arriver à un certain niveau de réalisme, là, à ce moment-là, on a tout gagné. Alors maintenant, on continue. Alors, on va expliquer. On a expliqué un peu la semaine dernière, on va expliquer aussi aujourd'hui. The Hot Zot is Core. Ça, The Hot Zot is Core, donc c'est deuxième ligne. Non, pardon. Ça, The Hot Zot is Core.
Véhav chez vous, allez des tapchoutes aussi.
Oui, Véhav chez vous. Alors. Véhav chez vous, allez des tapchoutes, bilouchim ravi. Je veux dire comme ça. On a dit que, bien que, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est bien pas ce que tu me dis. Tu me dis que, même si on n'a pas le décor, de manière générale, quand on a peur d'un roi, il y a un décor qui fait qu'on a peur du roi, qui nous aide à avoir peur du roi. Alors on a dit, même s'il n'y a pas le décor, mais en vérité, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. Il y a le même Akadosh Baruch Hu qui est toujours là. Maintenant, Admor HaZaken, il continue. Mais Av Shehu Alidei Tlapshut Bilushim Rabim. Il y a un juste qui va dire, mais je suis d'accord avec tout ce que tu me dis, que Akadosh Baruch Hu est derrière le monde, etc. Mais ce Akadosh Baruch Hu, il est bien caché. Il est caché avec beaucoup de vêtements. D'accord, je suis d'accord. Tu m'as dit que le décor, on n'a pas besoin. Pourquoi tu m'as dit que le décor, on n'a pas besoin? Tu m'as dit que le décor, c'est uniquement un décor. Ça veut dire que même sans ça, on peut se débrouiller. La preuve, c'est qu'on peut avoir peur du roi, même s'il n'y a pas le décor. Parce que le roi, ça inspire une crainte. Très bien. Mais ça ne change pas pour autant qu'on a un problème avec Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, si on peut dire. C'est quoi le problème qu'on a? C'est que Akadosh Baruch Hu est très caché. Qu'est-ce qu'il dit, l'Admor HaZaken?
Ça dépend de nous de dire qu'il est caché.
Ah. Non, il est réellement caché. Il est réellement caché. D'accord? Il est réellement caché. Pourquoi il est réellement caché? Parce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, avec tellement il y a eu de descentes dans le système des mondes qu'on a expliqué, qu'Akadosh Baruch Hu est vraiment descendu, avec Akadosh Baruch Hu est caché. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Admor HaZaken? Are en evdel ve efresh klal beirat masar melach basar vadam ben shehu arum ou ben shehu lavush lavush echad. Il dit très simple, l'Admor HaZaken. D'accord? L'Admor HaZaken, il nous dit qu'il n'y a pas de différence. Quand on voit un roi, il n'y a pas de différence si je vois le roi pas habillé ou si je vois le roi habillé avec 100 vêtements sur lui. Ça ne change pas. D'accord? Donc là, on est en train d'essayer de s'expliquer pourquoi, même si on a eu beaucoup de choses dans le monde, la nature qui cache beaucoup à Kadosh Baruch Hu, c'est les vêtements. De la même manière que les vêtements cachent le corps d'un homme. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi les vêtements d'Akadosh Baruch Hu? C'est le monde. Qui fait que quand on regarde le monde, on peut voir que le vêtement et pas voir celui qu'il y a derrière. Dit Admor HaZaken, de la même manière que chez le roi, ça change rien si le roi est habillé avec un vêtement ou si le roi est habillé avec, ou si le roi n'a pas de vêtements. Ça change rien. Ce qui compte, c'est le roi qui est à l'intérieur. D'accord? Et là, Icar, ou à Ergel, les Argil, Dat, ou Marchafto, Liot, Kavua, Bembaliba, ou Mochotamid. En vérité, pourquoi j'ai peur du roi? Parce que comme il y a le décor, donc le décor me rappelle que derrière les vêtements et derrière tout ce décor-là, il y a un roi. Ça veut dire que quelle va être la grande difficulté d'avoir la Yirat Hashem, la crainte de Dieu? La grande difficulté va être l'habitude. Écoutez bien ce qu'on va expliquer. Et on aura un nouveau sens du terme Emouna aujourd'hui. Et là, Ika, le principal. Ou à Ergel, les Argil, Dato, ou Marchafto, Tamid. C'est l'habitude. D'habituer sa pensée et son esprit. Liot, Kavua, Belibo, Mochotamid, de s'habituer, soit fixé dans sa tête, c'est-à-dire que c'est quelque chose que ça ne bougera plus. Asher kol mashero e beena bashamaim va aret umloa, que tout ce que je vois avec mes yeux, le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, akol em levushim achitsanim shel akadosh baruch hu, tout ça, c'est uniquement des vêtements, des habits d'akadosh baruch hu. C'est-à-dire que c'est là en vérité le secret de la Yirat Hashem. Le secret de la Yirat Hashem, c'est de s'habituer à réfléchir que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est pas facile, c'est même très dur. D'accord?
C'est évident. Hein.
On va en parler. D'accord? Dans les quelques lignes qui nous restent, on va en parler. Mais le secret de la Yirat Hashem, c'est de s'habituer de se dire que tout le monde qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on voit, même notre corps, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est seulement des vêtements pour cacher le corps du roi. Ça veut dire que derrière ces vêtements, il y a forcément un corps. C'est quoi le corps qu'on est en train de parler ici? Le corps, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça nous dit l'Admor HaZaken. Excuse-moi juste deux secondes, nous dit l'Admor HaZaken, ça c'est quelque chose qu'il faut s'habituer constamment à réfléchir. Vous savez, souvent c'est une question que les gens se posent, peut-être pas quand on est jeune, mais un peu plus tard, ils posent la question à Kadosh Baruch Hu, ils disent Dieu, où tu es? Si t'es là, donne-moi un signe. Et là en vérité, nous montre l'Admor HaZaken, nous dit, Dieu n'a pas besoin de te montrer où il est. Dieu, il est partout. Seulement quoi? Akadosh Baruch Hu a mis tellement de vêtements, que comme, c'est quoi les vêtements? C'est le monde, qui fait que on se focalise sur les vêtements et on oublie que derrière les vêtements, il y a un roi qui est derrière. Mais en vérité, il faut s'habituer à se rappeler constamment qu'avoua belibo mochotami. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on réfléchit constamment jusqu'à qu'après, dès qu'on voit la nature autour de nous, on voit Kadosh Baruch Hu. Vadideze, iskor tamid apliniutam vechayuta. Donc se rappeler constamment que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est uniquement un décor. C'est uniquement un décor. Je sais que c'est pas facile, on va en parler tout de suite. Donc c'est uniquement un décor. Et une fois qu'on s'est rappelé de ça, alors automatiquement, puisque je me rappelle que c'est qu'un décor et donc c'est qu'un vêtement, donc je me dis, bah si c'est un vêtement, donc il y a bien quelqu'un qui porte ce vêtement. Quand? Donc c'est comme, on va essayer de donner un exemple, d'accord? C'est comme la semaine dernière, je vous ai donné l'exemple des caméras. Imaginez-vous qu'il y a une caméra, ici, repelant en fer, il y a une caméra qui tourne en permanence, qui est en direct chez Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous qu'il y a une caméra qui est fixée ici. On n'a pas peur de la caméra. La caméra, c'est un vêtement. De quoi j'aurais la crainte? J'aurais la crainte de celui qui regarde. Mais la caméra, c'est rien du tout. La caméra, si on peut dire, c'est un vêtement. Ça veut dire que c'est un ustensile. C'est pas de ça qu'on a peur. Il faut s'habituer à penser que le monde, c'est aussi un emsaï, c'est aussi un intermédiaire, c'est aussi un levouche, un vêtement d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'on utilise un vêtement, d'accord, un jour on peut mettre un vêtement, un autre jour on peut mettre un autre vêtement. Bon, ça veut dire que c'est ça ce qui va habiller une personne, mais c'est pas ça la personne. D'accord. C'est pas ça, le vêtement, c'est pas moi, comme on a dit la semaine dernière. L'habit ne fait pas le moine. D'accord. Mais bon, d'un autre côté, un moine sans habit, c'est pas un moine. On est bien d'accord. Mais l'habit ne fait pas le moine. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'il faut se rappeler constamment, il faut se rappeler constamment que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est seulement un vêtement d'Akadosh Baruch Hu. Et que ça veut dire qu'en vérité, Dieu ne se cache pas, Dieu est là. Seulement quoi? Tout ce qu'on voit, c'est le vêtement de Dieu. Alors regardez comment Admor HaZaken va expliquer, c'est très intéressant.
Quand on dit que Dieu, qu'un roi sans vêtements, un roi avec des étanches, c'est exactement pareil.
Ce qu'il veut dire ici, c'est que la crainte qu'on a du roi, c'est pas des vêtements du roi. C'est sûr qu'après, quand le roi va mettre des vêtements, ça va rajouter du kavod. Même il y a une mitzvah de la Torah, qu'un roi il doit paraître majestueux.
Ouais,
sûr ça. D'accord? Il n'y a pas de question. Un roi il doit avoir des beaux vêtements, comme le Kohen Gadol.
Ou alors comme Mordechai, on lui a dit de porter les vêtements.
Bien sûr. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est que la crainte qu'on a, même si c'est les vêtements qui t'ont inspiré la crainte, mais la crainte ne vient pas des vêtements. D'accord. J'ai pas la peur des vêtements. J'ai la peur du roi. Seulement, le vêtement est un décor. Donc là, le décor sera quoi? Le décor sera le monde. On nous dit Admor HaZaken. Vezé, donc je vais un peu vite parce qu'on a déjà expliqué ces notions à l'oral, d'accord? Vezé Nichlal, la semaine précédente. Vezé Nichlal Gamken Belashon Emuna. Il y a deux semaines, on avait expliqué que même si des fois ça nous est difficile de craindre Akadosh Baruch Hu, il faut se rappeler que l'Israël, on est ma'aminim bnei ma'aminim. On est croyant, fils de croyant. Le mot Emuna, ça veut dire croyance. Mais dans le mot Emuna, on a aussi le mot Aman. On a aussi le mot Me'amen. Me'amen en hébreu, ça veut dire quoi? Un entraîneur. Ah, même en hébreu moderne, on dit Me'amen, un entraîneur. Imoun. Un entraîneur de football, Imoun. D'accord? Très bien. Imoun. Ça veut dire quoi, Emouna? Emouna, ça voudra dire... Emouna, ça voudra dire entraînement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, entraînement? Alors, elle explique comme ça, la Admor HaZaken. Zé, Nichlal Gamken, Belashon Emouna. Donc, ce qu'on est en train de dire que la personne doit s'habituer... Ce qu'on est en train de dire que la personne doit s'habituer constamment à réfléchir... Réfléchir constamment que tout ce qu'on voit c'est qu'un décor et que derrière ce décor il y a Kadosh Baruch Hu qui se cache. Ça si c'est Emouna. Emouna c'est pas simplement, dans un premier niveau c'est sûr que Emouna c'est avoir l'Emouna, la croyance au fond de soi. Mais explique à Admor HaZaken, c'est pas que ça Emouna. Emouna ça vient aussi du mot entraînement. Qui veut dire que si tu veux arriver à un résultat il faut t'entraîner. On va te donner les forces pour t'entraîner mais il faut t'entraîner. T'entraîner à quoi? Chez Margil à Adam et Tatsmo que l'homme va s'habituer à quelque chose. Kemo Uman Ameamen Yadav. Comme un artiste, d'accord? Comme un artiste qui va entraîner, qui va échauffer ses mains. Normalement, on sait très bien qu'on dit qu'un artiste naît artiste. Normalement, un artiste, il naît artiste. Pas besoin de...
C'est un don.
Et pourtant, on voit qu'il a besoin de travailler son don, il a besoin de se travailler, et quand ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé ce don, il va devoir se travailler. Ça prend du temps. Pourquoi? Il veut nous dire ici, l'Admor HaZaken et le Rav Sanat amène les exemples que je vous citais tout de suite. Il explique, il dit, c'est pas parce qu'on a quelque chose inné en nous que c'est pour autant qu'on n'a pas besoin d'entraînement. Il donne un exemple très simple, le Rav Sanat. Il dit comme ça. Il dit, on voit par exemple, quand un enfant apprend à marcher, on sait très bien que le fait de pouvoir marcher, c'est quelque chose, qui est inné en nous. Ça, on le sait. Et ceux qui ne l'ont pas inné en eux, ils ne pourront jamais marcher. C'est pas compliqué. C'est quelque chose qui est, c'est un don qui est inné en nous, la force de pouvoir tenir en équilibre et de pouvoir marcher. Et pourtant on voit, et ça je le vois chez mes enfants, je l'ai déjà vu chez un enfant, je le vois chez le deuxième maintenant, que c'est une fatigue énorme. Quand on commence à marcher, c'est une fatigue énorme, il transpire, on a l'impression que c'est très très difficile, bien que normalement c'est inné. Qu'est-ce qu'on voit dans ce premier exemple? On voit que même si une chose est innée, c'est pas pour autant que ça demande pas de l'entraînement. Autre exemple qu'on peut avoir, toujours avec les enfants. On voit qu'un enfant, ça lui prend beaucoup de temps, hein, la capacité de marcher, de l'équilibre, etc., c'est inné, ouais. Et les gens qui ont un problème, comment on appelle ça, moteur, je sais pas comment on appelle ça, psychomoteur, ils ont du mal à marcher, même quand ils devraient pouvoir marcher. Ça veut dire que c'est inné, on est avec ça. Il y a encore d'autres exemples. Hein. On voit des choses comme, par exemple, avoir la possibilité de s'imaginer l'espace. De s'imaginer l'espace, de s'imaginer la hauteur, de s'imaginer le temps, d'accord? De faire la corrélation entre ce qu'on voit et entre ce qu'on comprend. C'est des choses que pour nous, c'est des choses évidentes. C'est des choses très faciles pour nous. C'est des choses tellement évidentes qu'on dit que l'homme, d'accord? Que l'homme est né avec ça, c'est inné en nous, donc c'est pas difficile. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'enfant, chez un enfant, ça prend du temps. D'accord, l'apprentissage doit prendre le temps, il doit prendre les mots, il doit prendre l'espace, il doit prendre tous ces genres de choses.
La conceptualisation.
Bien que c'est inné. On appelle ça conceptualisation.
Conceptualisation.
Ah, donc conceptualisation du temps, du...
sans que ça soit concret.
Oui.
Conceptualiser les choses.
Et ça, c'est hein? Ça, on le voit beaucoup chez les enfants. Bien sûr qu'après on le, qu'après on le retrouve chez les adultes. Mais on le retrouve de manière très forte chez les enfants. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut montrer par ici? Que c'est pas parce que, excuse-moi, que c'est quelque chose d'inné, que c'est pas pour autant qu'il faut de l'entraînement. Donc pareil, nous dit l'Admor HaZaken. Bien qu'on t'a dit que la Yirat Hashem, craindre Dieu, le niveau de Da'at, est quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on a en nous depuis Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose que quand on va au Kever d'un Tzadik, dans lequel il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu, d'accord, qui est habillé dans cette tzadik, c'est évident que ça nous aide, c'est évident qu'on a un coup de pouce, c'est sûr qu'il y a un coup de pouce. Mais il faut savoir, d'accord, il faut savoir qu'il faut s'entraîner, et que, il faut savoir que, comment on dit, il y a combien de pourcents d'inspiration et combien de pourcents de transpiration,
hein? L'inspiration,
il y a 90-10, c'est ça?
Ouais, 90-10.
D'accord. Mais 90% d'inspiration, de transpiration, d'accord? Et 10% d'inspiration.
Qui n'est pas nécessaire d'ailleurs.
Ça veut dire que même si c'est quelque chose qui est inné en moi, et que Akadosh Baruch Hu me donne les kohot, et que si j'arrive pas à trouver tout seul les forces en moi, je peux aller chez Moshe Rabbeinu, je peux aller chez les tzadikim de la génération qui ont, que eux vont me donner les kohot, mais il faut savoir que c'est pas pour autant qu'il faut avoir la emuna. C'est quoi la emuna? Emuna, ça veut dire qu'il faut s'entraîner après. Il faut prendre les kohot, mais après il faut s'entraîner constamment, de voir partout la main d'Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, notre boulot, notre maison, notre voiture, tout ce qu'on a, s'habituer à voir que ça, c'est seulement des outils pour accomplir la mission d'Akadosh Baruch Hu. C'est très dur d'arriver à cette conclusion. Mais quand on s'habitue à réfléchir comme ça, après, petit à petit, on se met à voir chaque chose qu'on voit autour de nous, on analyse comment cette chose-là peut m'aider à mieux servir Akadosh Baruch Hu.
Quelle différence il y a entre la Emouna, selon cette définition, et l'autosuggestion?
C'est la même chose en vérité. C'est comme le Da'at, c'est que la première Emouna, c'est le fait que c'est le côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le côté inspiration.
Oui.
Alors que cette Emouna-là, c'est le côté transpiration. Mais les deux, on a besoin des deux. Ça veut dire, quand je parle de Moshe Rabbeinu par exemple, j'ai l'étincelle de Moshe Rabbeinu en moi, mais c'est pas pour autant, ça change pas que j'ai besoin de transpirer, de m'entraîner. Ça c'est la Emouna. D'un côté, il y a Moshe Rabbeinu et Dieu qui me donne les kohot, et t'inquiète pas, t'as tout qui va avec.
Vas-y.
T'inquiète pas, tu peux y aller.
J'ai livré avec
L'Admor HaZaken, on peut dire qu'il a pas arrêté de le dire en tout le Tania, qu'on est avec des forces, et que personne peut dire j'ai pas la force, on est avec ça, tu as déjà. Mais attention. Emouna, ça veut dire aussi entraînement. Ça veut dire qu'il faut transpirer. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner, il faut s'habituer à réfléchir.
Mais est-ce que quelqu'un qui a la Emouna dans la tête, mais pas dans les faits, c'est-à-dire il va pas se lancer tout de suite à dire, un business, il va dire, moi je sais que Dieu va m'aider. Par contre, il dit, je sais que c'est Hachem qui a créé le monde, j'ai la Emouna.
Il ne sait pas à s'entraîner, c'est de l'entraînement.
Mais il a quand même une partie de Emouna.
Attention, on n'a pas dit qu'il n'a pas de Emouna.
Il fait de la oui, d'accord.
On n'a pas dit qu'il n'y a pas de Emouna, on a dit qu'il n'y a pas d'entraînement. S'il n'y a pas d'entraînement, ça veut dire par exemple qu'il a appris à porter avec la main droite, avec la main gauche. Mais il peut, s'il veut, s'il va s'entraîner à porter avec la main gauche, il va aussi porter avec la main gauche. Il faut s'entraîner. Bon, tout ça, ça va bien. D'accord? Tout ça, ça va bien quand, Baruch HaShem, on arrive à réfléchir, quand le cerveau est clean. Des fois, ça arrive que le Yetzer Hara nous a tellement pris, que même quand on va être devant le sadique, même quand on va vivre la chose, quand on devrait vivre la chose,
oui.
Ça nous fait rien.
Non.
D'accord?
Ça arrive.
Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait?
On n'a rien. On a fait 7000 km,
on s'est entraîné, mais ça n'a pas marché.
6000, pardon.
Alors, il nous dit... Gam liot, c'est pour ça qu'il dit Admor HaZaken. Gam liot, c'est du 45 000.
On dirait qu'il parle de quelqu'un, ça qui m'étonne.
Je parle de personne, je parle de moi. Gam liot, c'est du 45 000.
Tu vas, tu
sens rien, non? Non, ça peut arriver. Gam liot, c'est du 45 000, la chaîne Razal. Il faut aussi se rappeler constamment de ce que les Chachamim m'ont dit. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la Yira provient, d'où elle provient, la Yira Tachem, la crainte de Dieu? Elle provient du Da'at. Elle provient du fait qu'on va réfléchir à Kadosh Baruch Hu de manière réaliste, qu'on va sentir que c'est quelque chose de réaliste. Comment on va sentir que Kadosh Baruch Hu c'est quelque chose de réaliste? Par deux choses. Tout d'abord, grâce à l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en nous, qui va être accompagnée d'un entraînement. Transpiration et inspiration. D'accord? Plutôt le contraire. Inspiration et transpiration. Très bien. Si maintenant, je n'arrive pas, j'ai la transpiration et l'inspiration ne vient pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit l'Admor HaZaken? Il faut se rappeler de ce que les Chachamim m'ont dit. Kabbalat ol malchut shamaim. Écoutez bien. Les Chachamim, dans la Gemara Brachot, quand ils nous parlent de Kabbalat ol malchut shamaim, de recevoir sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez outé? Je suis trois lignes avant la fin de la page. Kabbalat ol malchut shamaim, la mitzvah de recevoir sur soi le joug de Dieu. Alors d'après vous, est-ce que c'est une mitzvah qui je le fais une fois par an, une fois par deux ans, au début de ma vie, à la fin de ma vie, quand je l'ai fait cette mitzvah?
Une fois par jour.
D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent les Rachamim? Écoutez bien. Ils disent, Sheu Keinyan, la Gemara explique au début de la Gemara Brachot, il dit Sheu Keinyan, Sam Tassim Alechamelech. C'est une mitzvah qui est au présent. Avoir sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une mitzvah qui est ni au passé ni au futur. C'est une mitzvah qui est au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mitzvah constante. C'est une mitzvah qui ne s'arrête jamais. C'est une mitzvah qui est permanente. Comme la mitzvah de Sam Tassim Alechamelech. La mitzvah de Sam Tassim Alechamelech, on a une mitzvah de se placer sur soi un roi. Alors, il y en a qui vont dire, la mitzvah, c'est de nommer un roi. Une fois qu'on a nommé le roi, quand? Une fois qu'on a nommé le roi, c'est fini. Ça y est, notre mitzvah, on l'a faite. Maintenant, le roi, d'accord? C'est au roi de se débrouiller maintenant et de faire son plan pour s'assurer que tout va bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Encore une fois, la Gemara lui dit, non! Elle nous dit, Sam Tassim Alechamelech, c'est constant. C'est constant, il faut constamment garder sur soi la crainte du roi, la majesté du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Yirat Hashem, Vayakov.
Hein, il est hyper calme.
Oui, il est.
Mais hyper calme.
Mais j'en ai ma com, j'en ai ma zèle.
Ah ouais, hein. Non, mais il est trop longtemps. À côté de toi, il avait la pêche.
Monsieur David, t'as pas servi le Chaim Yaakov.
Là, il... J'ai fini par comprendre qu'en vérité, l'inspiration, c'était le lundi, hein. Et toi, tu avais la transpiration là-bas.
Il a besoin d'un starter. Serre-nous un petit peu, on va dire le Chaim.
J'ai pas compris là.
Avec sa permission.
Bien, on va leur faire passer. Tenez, Yaloulet, on vous apporte l'aspiration.
On va pas perdre le fil, ça vous dérange pas. On va perdre le fil.
Le carburant.
Il y a des questions, ne vous inquiétez pas.
C'est le nougat, il bat le nougat.
Il faut mettre un petit peu.
Non.
Oui. Un enfant lui a demandé mon fils avec 7 ans. C'est à Paris, moi, j'ai dit, mais papa, je prends ma chaîne et je veux croire à chaîne. Même moment que je me dis ça, moi je regarde vers le ciel, c'est comme un beau fils, il a une âme pure, il se demande sincèrement de donner des humanités, ça vient de la nature. Qu'est-ce qu'il a fait? J'étais gardé, devant moi, il y avait un véhicule, quand je lui ai additionné tous les chiffres de la plaque, on arrivait à 26. Il a mon fils, c'est la gabarit de juste Sébastien. Il me dit, 26, il voit la plaque.
Il fallait pas être à côté de la plaque, hein.
Non.
Là,
il y a eu de la transpiration.
Là, ça chauffe. La première, je dis bon, ça va.
C'est gilet G3, ça.
Qu'est-ce que tu regardes vers le ciel? Tu dis, après, je vous retrouve. Mon enfant, sincèrement, il a posé la question. Il a dit à tous les élèves de la classe, je veux qu'elle te retrouve.
C'est constant, c'est permanent, là.
C'est normal, il me permet de dire,
il était dans la Drôme.
Il m'a dit,
Razak.
Bravo.
Donc il dit comme ça.
Vous étiez à la circulation avec le nom de 17, je te rappelle.
C'est pas vrai.
On s'est demandé
s'il
choisissait les plats.
Certainement. Donc il dit comme ça. Donc, c'est quoi la mitzvah de la crainte d'Akadosh Baruch Hu? La mitzvah de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah qui est constante. Rappelez-vous la question. On a dit, qu'est-ce qui se passe si une personne s'est fatiguée, mais à un certain moment, il sent un blocage. Il sent que ça ne passe pas. Ça passe pas, ça veut dire que je me suis travaillé, je me suis fatigué, mais il sent que ça passe pas. Bon, ça peut être un exemple, et ça rentre pas.
Et rien.
Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans ce cas-là, c'est comme la mitzvah de craindre un Kadosh Baruch Hu, c'est comme la mitzvah d'avoir un roi sur soi. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Le Rav Senzel, ici, il amène un exemple. Il dit, c'est comme quand quelqu'un commence à faire le régime. Il commence à faire un régime. Au début, d'accord, au début, il a envie de faire le régime, parce qu'on lui a expliqué que c'est pas bien, qu'il a trop grossi, et il doit faire le régime. Donc il va faire son régime, il va démarrer son régime. Au début, il est tout feu, tout flamme. Ensuite vont commencer les épreuves. Très bien. Au bout d'une semaine, il en a marre, mais même s'il en a marre, même s'il le casse les pieds, d'accord, il a la force encore de transpirer. Pourquoi? Parce qu'il a encore l'inspiration. Il a encore l'inspiration de l'époque qui lui dit que je t'avais prévenu que ça allait être difficile, mais t'inquiète pas, tu vas maigrir. Mais après, vient un moment, va venir un moment, dans lequel là, il n'aura plus du tout d'inspiration. Ça veut dire que là, tu lui dis, tu sais, si tu continues comme ça, dans un mois, tu vas perdre 5 kilos. Et de l'autre côté, tu lui montres un bon hamburger, il dit, je m'en fiche des 5 kilos, je veux mon hamburger, here and now, maintenant et tout de suite. D'accord?
Ça, c'est la folie.
Ça, c'est plus dur. Et qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire le diététicien? Qu'est-ce qu'il va vous dire le médecin? Il va dire, c'est maintenant qu'il faut tenir. C'est maintenant qu'il faut tenir, et si tu tiens ces quelques instants, après t'inquiète pas, ça suivra. Après ça suivra, t'inquiète pas, tu auras l'inspiration, tu auras tout ce qu'il faut. C'est la même chose par rapport à la Yirat Hashem, par rapport à la crainte de Dieu.
D'accord.
Ça veut dire que ça se joue dans quelques instants. Ça peut être quelques instants, quelques minutes, quelques jours. Mais si on se retient, au moment où c'est le plus dur, le Yitzhara est enlevé de toute l'inspiration. Ça devient très très dur. J'ai même plus la force de me battre contre mon Yitzhara. Si on tient à ce moment-là et on persiste, c'est là que la Yirat Hashem viendra. Et ça, on le voit. Comme on a vu il y a quelques mois dans le Tania, il avait expliqué que quand le Yitzhara nous présente une Avera devant nous, au début, on a l'impression que c'est très très dur. On va essayer de se retenir, et une fois qu'on s'est retenu, ça peut durer quelques instants, d'accord, quelques secondes, on réalise qu'en vérité, l'épreuve, c'est walou, c'est rien du tout, c'était du vent. Toutes les preuves qu'on croyait du Yitzhara, c'était du vent, c'est rien du tout. Alors qu'on avait l'impression que c'était impossible, c'était insurmontable. C'est la même chose pour la Yirat Hashem. La Yirat Hashem, on a de l'inspiration, il faut passer par la transpiration, et même dans un moment dans lequel on sent que c'est fini, on n'est plus inspiré, il faut continuer, c'est une mitzvah qui est constante. Ça nous aide, Morazaka. Ne t'attends pas que tu fasses une fois dans la journée. C'est une mitzvah qui est constante. Qui dit constante, ça veut dire quoi? Qui dit qu'il y aura des hauts et des bas, parce que sinon on n'a pas besoin de faire une mitzvah constante. Sinon on te dit une mitzvah une fois pour la vie, elle reste, c'est fini. Ça bouge plus. Pourquoi on a besoin de faire la mitzvah constante? Parce que c'est pour te dire que tu risques d'avoir des hauts et des bas, et il faut constamment injecter de la puissance, et de la emouna, et de l'entraînement. Dès que tu t'arrêtes, tu risques de tomber. D'accord, ça, ce concept d'entraînement, je pense qu'on peut l'appliquer partout, je pense même dans les sports, on vous dit qu'il y a un moment dans lequel ça devient très très dur. Voilà, par exemple, on fait du vélo. Alors, je me rappelle une fois, on avait fait du vélo, on avait fait randonnée on avait fait le tour d'Aix-les-Bains en vélo. Alors, je crois qu'il y a 60, 70 km quand j'étais jeune homme. Il y a 60, 70 km. Ouais. Ça monte, ça descend et tout, c'est vraiment, pour un Bachour Yeshiva qui n'a pas l'habitude de faire du sport, c'était dur. Et celui qui était avec nous, le guide, il nous avait dit au moment où vous allez sentir que vous pouvez plus, vous n'en pouvez plus, c'est fini, vous avez craqué, si vous continuez, c'est là que vous allez trouver des nouvelles forces. Et je l'ai vu chez moi. Je l'ai vu, mais clairement. Au moment où c'est fini, tu sens que tu n'en peux plus, tu forces encore quelques secondes, et là tu sens que tu as une nouvelle force qui vient. Ça, c'est l'enseignement qu'on a ici. Qui est à Kadosh Baruch Hu. D'accord?
Rico, tu
qui a Kadosh, oui, le vélo, on connaît ça. Qui a Kadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'il faut se rappeler constamment? Constamment. Qui a Kadosh Baruch Hu maniach et ayonim vatartonim. Il faut se rappeler qu'à Kadosh Baruch Hu laisse tous les mondes en haut, vatartonim et tous les mondes qui est en bas. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu laisse tout le monde. Ou meyached malchuto alenu. C'est une notion qu'on avait vue au début du chapitre 41. Se rappeler constamment que même si on a envie de se dire, la Torah c'est bien pour les mondes supérieurs, eux ils ont qu'à se débrouiller avec la Torah, nous on est dans le monde ici-bas, laissez-nous tranquille, laissez-nous souffler un petit peu. Non! Il faut se rappeler que toute la Torah, tout ça, c'était créé pour nous. Et qu'en vérité, tout le Gan Eden et tout ce qu'on peut s'imaginer, ça tourne autour de nous. Et la preuve, comme on avait expliqué, c'est que même eux, quand Machar viendra, ils vont redescendre en bas. Va nart nous mekablim, et donc nous on reçoit sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu.
Ouais.
On dit l'admor Azaken, avec ça on va comprendre pourquoi.
Dans le Kaddish aussi.
D'accord. Une fois qu'on a reçu le joug d'Akadosh Baruch Hu sur soi dans le Kriyat Shema, c'est ça le Kriyat Shema. Tout à l'heure j'ai posé la question combien de fois par jour on dit le Kabbalat Ol. D'accord, on a la soumission de Dieu, on m'avait dit trois fois. C'est une mise à constante, mais c'est une mise à qu'on répète trois fois dans la journée. Très bien. Alors, la question, enfin deux fois plutôt, deux fois obligatoire. Une fois le matin, une fois le soir. D'accord. Maintenant, on voit que le matin, quand on fait, donc il y a tout un processus dans la tefila, hein. On l'a expliqué une fois le processus, une progression, ouais. On avance, tout d'abord on parle de la nature, après on va parler des anges, on essaye d'amener la personne en éveil, jusqu'à la fin on arrive à, maintenant tu signes, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, maintenant il faut se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Une fois que je suis mis à Kadosh Baruch Hu, l'amida aurait dû s'arrêter, alors la tefila aurait dû s'arrêter ici, ça y est. J'ai reçu le joug d'Akadosh Baruch Hu, on a obtenu le but de se compter, c'est fini.
Non, il faut
en imaginant qu'on a atteint le but qu'on cherchait. Maintenant c'est fini. Pourtant qu'est-ce qu'on voit? On voit que le schéma. Non, mais justement, on voit que le schéma, c'est pas le point culminant de la fila. C'est l'amida. Qu'est-ce qu'on fait dans l'amida? On commence par quoi l'amida? L'amida, on commence par le bitoul, par l'annulation à Kadosh Baruch Hu. On va se prosterner, l'amida va être à pieds joints, comme si on était devant un roi. On va pas faire l'amida à voix haute, parce qu'on va montrer qu'on a annulé comme si on était devant un roi. Qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Ça nous apprend qu'il faut savoir qu'après la soumission doit venir une période d'annulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une fois que tu t'es soumis, et même une fois que tu as eu la transpiration et l'inspiration, c'est pour t'apprendre, il faut que tu saches que tu devras t'annuler. Et que viendra un moment où tu comprendras plus tellement, que même toute l'inspiration que tu as pendant le Kriyat Shema, peut-être que dans la journée, elle t'intéressera plus. Là vient l'enseignement de l'Amida, Tu lis même quand ça t'intéresse plus, il faut continuer bitoul avec annulation, comme on va développer tout de suite dans le chapitre 43, avec annulation, comme si que tu as compris.
C'est quoi la différence entre annulation et soumission ?
Soumission, ça veut dire que j'accepte.
Non, j'existe encore.
D'accord, j'existe encore, et j'ai compris qui est Kadosh Baruch Hu, donc je me soumets à lui. Ça, c'est soumission. Annulation, c'est que je ne comprends pas, et ça m'intéresse pas, et j'ai la possibilité de ne pas écouter Dieu, de dire qu'il est même pas là, Shemishmor. D'accord ? Et qu'est-ce que je fais ? Je dis, je m'annule à lui. C'est pas pour rien. Que moi, je suis de Berne, ma comme Acher, comme on expliquera plus loin. Donc, on expliquera ça plus loin, vers la fin du Tania, on expliquera ce concept-là. D'accord ? On approche de la fin déjà.
Je n'y crois pas.
Oui. C'est pour ça qu'on a démarré par le Kabbalatol, par l'annulation. Celui qui vient directement, celui qui vient, il dit, moi je fais pas la tuila. C'est quoi votre but dans la tuila? C'est que vous annulez à Dieu et moi je m'annule à Dieu. On dit, non, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Parce que ton annulation, tu crois que tu t'annules, mais tu t'es pas annulé à Dieu. L'annulation ne peut venir qu'une fois qu'on a eu la irat Hashem, la crainte de Dieu. Qu'on a eu la soumission à Dieu. Et là va venir par derrière l'annulation pour te rappeler que viendra un jour, et il va pas tarder à arriver, c'est cet instant-là, que tu ne sentiras plus. Et tu sentiras plus la soumission. Et là on te dira, attention, bitoul. La vraie raison pour laquelle tu fais, c'est un coup de pouce qu'on te donne à la soumission. Mais la vraie raison pour laquelle tu fais, c'est bitoul annulation à Kadosh Baruch Hu. Que moi je suis de bave, ma commande. Donc avec ça, on conclut le chapitre 42. Dans le chapitre 42, on a expliqué très longuement, d'accord ? On a expliqué très longuement le concept de iratata. On a expliqué très longuement le concept de la crainte. Parce qu'en vérité, on a compris que la crainte, ça tournait... Il y a une étincelle de Gdouja, là, dans les...
Il y a quelque chose, là. Les deux fois.
On a expliqué que la crainte, d'accord ? Que la crainte, ça tournait autour de Da'at, ça veut dire que pour arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord arriver à un niveau qu'on réalise qu'Akadosh Baruch Hu soit quelque chose de réaliste, que ce soit quelque chose de concret. Ça, c'est le secret. Très bien. Maintenant, on nous dit la Gemara Zaken, maintenant qu'on a compris ça, alors, Iné, on passe au chapitre 43. Iné, Alira, donc dans le chapitre 43, il n'est pas très long le chapitre 43, Bezrat Hashem, on le finira pour... Cette semaine qu'on aura l'occasion de commencer le chapitre 44, avant la fin du mois de juillet. Il nous reste un mois, 4 cours.
Donc, il n'y a pas de vacances. Hein,
on a parlé de... Non. On a parlé de la Iratata, d'accord ? Donc on a parlé beaucoup de la Iratata, de la Iratata, c'est de la crainte de bas niveau. Enfin maintenant dans ce chapitre-là, on va développer plusieurs points. On va développer la Iraïla, la crainte de haut niveau. Mais on va pas la développer très longuement parce que la Gemara Zaken va dire que, en vérité, c'est que pour les tzadikim. Et comme ce livre-là, il s'appelle le Sefer Shel Benonim, le livre des Benonim.
Bien sûr.
D'accord. Alors que la Iraïla, c'est quelque chose qui vient en cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Attention. On n'a pas dit que la Iratata, c'était facile. On a dit que c'est accessible. Accessible, c'est accessible. On a compris. On a compris que c'est accessible. Ça, on l'a bien compris dans le chapitre 42. Donc, on va expliquer brièvement dans le chapitre 43. Qu'est-ce que c'est la Iraïla ? Qu'est-ce que c'est la crainte d'en haut qui est donnée aux tzadikim ? Et après, on passera Bezrat Hashem à l'amour. Parce que rappelez-vous ce qu'on a expliqué, on a expliqué que sans crainte, il n'y a pas d'amour. Maintenant, on comprend pourquoi sans crainte, il n'y a pas d'amour. Parce que c'est quoi le stade de la crainte ? Le stade de la crainte, c'est le stade dans lequel on réalise la chose de manière concrète. Une fois qu'on a réalisé la chose de manière concrète, après tout va suivre, l'amour, la crainte. Donc on va développer ça, le lien qu'il y a entre l'amour et entre la crainte et l'amour. Ainsi que le niveau de la ira il a, la crainte de haut niveau, on va développer tout ça dans le chapitre 43.
La crainte, on dit que c'est lié avec l'amour.
Oui, bien sûr. Oui, mais c'est progressif. On va expliquer pourquoi l'amour doit être précédé de la crainte. On va faire le contraire. On en a déjà parlé. C'est pas la première fois qu'on en parle.
On avait dit que c'était la différence qu'il y avait entre les gens qui ont toujours été religieux et les
Manichouva. Ouais. Ouais, on en a parlé.
Et les uns ont un accès du premier, l'autre.
Ve'iné. Dis la demande à Zaken. Ve'iné. Alira tataz. Sur cette fameuse ira. D'accord ? Sur cette ira tata, donc la crainte d'en bas. Shehi. D'accord ? Le kiyu mitzvot avidbarer. Le prinat surmera va asetov. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi cette crainte d'Akadosh Baruch Hu ? Si on analyse, regardez comment la demande à Zaken, en une ligne, il va nous dire tout le chapitre 42. Il va nous dire tout le chapitre 42, en une ligne. Regardez. Il dit comme ça.
Il n'y a pas beaucoup dans le cinéma.
Veine, alira tatazo, sur la crainte, sur cette crainte-là, shehi, regardez, écoutez bien les mots que je veux dire. Shehi le kiyum mitzvotav, qui est en vérité celle qui va pousser l'homme à accomplir les mitzvot de Dieu, biprinat surmera va à cet homme. Dans le négatif et dans le positif. Ça, c'est la définition du chapitre 42. Ça, c'est la définition de la crainte qu'on a parlé. Le but de la crainte, c'est pas d'arriver à de haut niveau. Ça, ça va être la crainte d'en haut. Ça, on parle pas de ça. Vous avez remarqué que on a utilisé la crainte dans tout le chapitre 42 pour nous montrer que grâce à la crainte, alors je vais comprendre que je vais réaliser que c'est du concret, que c'est pas de la blague, et grâce à ça, je ne vais pas faire d'avérot et je vais accomplir les mitzvot. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une ira, c'est une crainte qui est là seulement en tant que coup de pouce pour m'aider à accomplir les mitzvot. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit que c'est une ira qui tourne autour de Tzarat. C'est un passe-partout. C'est bien. Si, c'est la crainte de la punition. Il y a aussi, oui. C'est une bonne question que vous posez, on va en parler tout de suite. On va dire que dans la ira tata même, il y a deux niveaux. Amrou, sur cette crainte qu'on a dit, imen ira en chokma. Qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? C'est écrit dans Pirkei Avot, s'il n'y a pas de crainte, d'accord, il n'y a pas de sagesse. Et on nous dit de l'autre côté, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Alors je commence par quoi? Mais non, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse.
Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte.
Alors je commence par quoi?
Fais-le un peu la ponction, le premier. Non. Vous nous avez le coup il y a très longtemps déjà.
Hein? Alors comment ça marche?
Pas commencer.
Alors je peux pas commencer. Ah, oui. Donc vous me laissez tranquille, je reste chez moi. Le jour où vous déciderez, vous venez me voir. Alors écoutez bien. Là, Admon Razaken va expliquer. L'œuf et la poule, d'accord, bon, il va expliquer qu'en vérité, on parle pas de la même crainte. C'est-à-dire, comment il dit dans Pirkei Avot, il dit comme ça, Imanira en Chorma. S'il n'y a pas la première crainte, il ne pourra pas avoir la Chorma. Et s'il n'y a pas la Chorma, on ne pourra pas avoir Imen Chorma. S'il n'y a pas la Chorma, il ne pourra pas avoir Ira, la Ira et la deuxième Ira. Il va expliquer à moi. Là, il dit comme ça. Veyeshba, Prinat Katnut ou Prinat Gadlut. Dans la Ira, jusqu'à présent, tout ce qu'on a expliqué, le concept de la Ira Tata, la petite Ira. La Ira de bas niveau. La Ira qui va être le moteur pour m'empêcher de faire la vérote et m'aider à faire les mitzvot. D'accord ? C'est un peu, comme on a dit, c'est un peu la peur du gendarme. Ça veut dire, c'est pas que réellement je nourris un sentiment de crainte envers la personne, c'est que il y a quelque chose que je vais nourrir un sentiment de crainte qui va m'aider à ne pas accomplir une avéra. D'accord? La ira est un moyen, c'est comme le das, d'accord? C'est un moyen, c'est une clé pour arriver à faire d'autres mitzvot. Ça c'est Prinat Katnout, ou Prinat Gadlout, et de l'autre côté il y a la grande ira. Et il explique comme ça. Deaïnou, ça veut dire. Dans le précédent chapitre, on a parlé de la ira tata, de la crainte d'en bas. Il explique également à Zaken. Chenim shechet, prinat irazo, meit bolenut bigdulat hachem. Lorsque cette crainte-là va venir, meit bolenut bigdulat hachem, de la réflexion dans la grandeur de Dieu. La personne va réfléchir à la grandeur de Dieu. Rappelez-vous, c'est qu'on explique à la fin du chapitre.
C'est comme ça qu'on avait commencé d'abord.
De iou memale kolalmi. Je vais réfléchir que Akadosh Baruch emplit le monde entier. Maintenant, on comprend ce que ça veut dire emplit le monde entier. Ça veut dire que tout ce que je vois autour de moi, c'est Dieu. C'est le vêtement de Dieu. Là, on comprend ce que ça veut dire. Très bien. Je réfléchis qu'à part ça, que d'abord, déjà, toute l'immensité de la nature, c'est Dieu. C'est le vêtement de Dieu. Je réfléchis qu'à part ça, notre monde est rien par rapport aux autres mondes. Ou me'aretz l'arakia ma'alar tafkouf shana. Que les rachamim nous donnent une expression, d'accord, qui disent comme ça, ils disent que de la terre jusqu'au ciel, on a de quoi marcher 500 ans. D'accord? Alors 500 ans, c'est l'équivalent de, enfin en vérité, donc aujourd'hui, Maïmonide il explique, Tafkouf, c'est, oui.
Ah, il s'est marié, je sens
que c'est... Alors Maïmonide il explique qu'en vérité, quand on parle de Rakia ici, on parle du soleil. On parle de la distance qu'il y a entre la Terre et le soleil. Il me semble que c'est 300 000, combien 159, voilà, bon. Maïmonide, dans les premiers chapitres dans le premier chapitre de son œuvre, Yisada Torah, son œuvre Mishneh Torah, dans les Ilchot Yisada Torah, il explique là-bas, il fait le calcul, d'accord, il fait le calcul combien une personne peut marcher dans une journée, et il fait le calcul, il dit, voilà, ça correspond à la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Et c'est la distance qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je me rappelle plus la distance, il dit 159, mais je me rappelle que j'avais vérifié, mais c'est la même chose que ce qu'on dit chez les Goïs. Bon. Donc je réfléchis que, déjà, tout ce que je vois autour de moi, c'est Dieu. C'est-à-dire toute l'immensité de la nature, c'est Dieu. À part ça, je réfléchis que, il y a aussi en hauteur, il n'y a pas qu'autour de moi. Donc, Oumé arrête la rakia, ma alert tafkouf shana. Si je monte jusqu'au ciel, il y a encore pour 500 ans. Je réfléchis encore que, ou ben rakia les rakia, qu'entre chaque ciel, et combien de cieux on a?
7.
Il y a encore une fois ma alert tafkouf shana. Il y a encore une fois de quoi marcher 500 ans. Ça veut dire, c'est pour nous montrer que ça s'arrête jamais. Etc. D'accord? Ça veut dire, là, on commence à faire, travailler l'imagination. Hein, Julien, tu veux, on travaille l'imagination, là? On monte? D'accord? Alors, ou ben rakia les rakia. Ensuite. Veragler Hayot Keneged Kulam. Ensuite, la Gemara Chagiga nous dit que les pieds des Malachim qui s'appellent Chayot, juste leurs pieds, ils sont équivalents à toute cette immensité. Ça veut dire tous ces 500 ans x 7. Juste les pieds. D'accord. Ragla Khalak Neged Kulam. Alors bien sûr, de toute façon, on ne va pas comprendre, ça n'a rien d'essayer. D'accord.
Image.
D'accord, c'est une image. Mais c'est une image pour nous chercher. C'est une image que les
Rachamim
nous pour nous montrer l'immensité. D'accord. Donc c'est de l'intimidation. Vechen. Et on va réfléchir, donc après tout ça, tu m'as dit que juste les pieds des anges qui s'appellent Chayot, d'accord, qu'on a Séraphim, Chayot, Ophanim, juste leurs pieds c'est l'équivalent de tout le monde. Ça veut dire que c'est des niveaux très très forts. Et comme ça je réfléchis qu'en vérité, ça veut dire même si on a le cerveau pour réfléchir, même si c'est Baruch HaShem, on a des bonnes connaissances en Kabbal, et qu'on a un cerveau qui suit, on a un bon processeur, et il faut un très bon processeur, on voit que Adrum Amalot, ça veut dire que ça va jamais s'arrêter. Ah, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui va avoir cette crainte-là d'Akadosh Baruch. Il va s'imaginer comment Dieu est infini, comment on monte, toujours il y a plus haut, plus haut. Il va se dire, mais moi je suis rien devant Dieu, je suis un microbe devant Dieu. D'après vous, ça c'est une crainte de haut niveau ou de bas niveau?
De bas niveau. Vu le différentiel, c'est très bas.
Non, mais disons que la crainte que je vais avoir, c'est que je vais avoir la crainte devant Akadosh Baruch, c'est-à-dire que je vais me sentir comme un microbe devant Akadosh, comme rien du tout.
De haut niveau.
D'accord?
Ben, on a dit que c'est un peu la crainte et tout ça. Là.
Bien, il a raison. A priori, on aurait dit que c'est de haut niveau. On va dire de Morzaken, c'est de bas niveau.
Ouais,
pourquoi?
C'est bien tenté.
Pourquoi? Non, mais tu as raison.
Pourquoi? Quand tu viens de bas niveau, tu n'as pas dit oui. Il a laissé courir. Écoutez, il tendait,
ça s'appelle de la mauvaise. De l'intox.
Là, c'était de l'intox. Tout à fait. Ben, ça a intoxiqué certainement.
Mais, non, parce que je vais expliquer pourquoi la Morzaken a besoin de le dire.
Bien sûr.
C'est-à-dire que normalement, on aurait dû penser le contraire.
C'est de la manie.
La Vamina, elle était bonne.
Bien sûr, très bonne.
Ah,
pas le piquet,
non, même pas la chute dans son truc.
D'accord.
Il ne risque rien à rien.
Nikra, irazo, ira chitzonit betatar. Quand même, ça veut dire, même si c'est pas la... On a expliqué la semaine dernière qu'il y a la peur du gendarme. En fait, il y a la peur du gendarme. La peur du gendarme, ça veut dire, j'ai peur que le gendarme... Il avait donné l'exemple de Rassenzalt, il avait dit, une personne, pourquoi une personne ne va pas cracher dans le musée? Personne n'a envie de cracher dans un musée. Il va pas le faire. Pourquoi il va pas le faire? Deux raisons possibles. Ou bien, ou bien parce que il y a le policier, même si le policier il est pas là, mais il y a les caméras et le policier il peut passer à n'importe quel moment. Ça c'est la crainte du policier. Ça c'est la crainte de bas niveau.
C'est pas l'endroit.
Quand, à part ça, il y a une autre crainte, mais qui est elle aussi de bas niveau. C'est quoi l'autre crainte? C'est de dire, l'endroit est tellement beau, ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'en vérité, cracher ça ne me dérange pas. Mais, c'est pas le fait de cracher qui me dérange. Je me dis, l'endroit est tellement beau, ça ne se fait pas. Je dis, l'Edmond Razaken, c'est la même chose pour la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On a la crainte de bas niveau, de très bas niveau, qui te dit, moi pourquoi j'ai peur de faire un Averot, et pourquoi je fais des misotes, parce que j'ai peur que Dieu va me punir, la peur du bâton. Bon. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, il y a un policier qui passe, et il va mal se comporter, il va frapper. C'est pas faux. C'est vrai. Il y a après une crainte qui est aussi de bas niveau, mais qui est beaucoup plus haute. Dans laquelle on va s'imaginer, on va dire, Dieu a fait un monde tellement beau. Ça, c'est quelque chose auquel on peut arriver. Dieu a fait un monde tellement beau, le monde d'Akadosh Baruch Hu est tellement parfait, la Torah est tellement belle, c'est dommage de tout gâcher avec une avéra qu'on va faire. Ça ne se fait pas. Et on a des gens comme ça qui se retiennent de faire d'avérat avec cet argument-là. C'est l'argument qu'il dit au Yetzar. Il dit, écoute, le monde il est tellement beau, c'est dommage. C'est comme si tu prends quelque chose, tu viens d'acheter quelque chose de tout neuf, d'accord, tu le casses. C'est dommage, c'est assourd. Même si tu as l'argent, c'est dommage. C'est assourd. C'est
gâchis.
D'accord. C'est du gâchis. Mais ça, c'est aussi ratata. Pourquoi c'est aussi ratata? Pourquoi c'est une crainte de bas niveau? Parce que c'est pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu.
Il n'y a pas une soumission.
D'accord? Je n'ai pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est uniquement, on est encore dans le décor. Parce que comment je suis arrivé à cette crainte? Je m'imagine que Dieu est tellement grand, parce que regarde, les mondes, je monte. Il y a eu déjà 500 ans et 500 ans fois 7 et encore les malachim et les anges. J'arrête pas de monter. Mais tout ça, c'est des vêtements d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que qu'est-ce qui m'a inspiré la crainte? C'est des vêtements d'Akadosh Baruch Hu. C'est toujours pas Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Pas la crainte du décor. Attention, c'est déjà très très bien.
Pourtant, il semblerait, c'est ce qu'on répète tout le temps.
Que
on dit toujours la Yirat Shamaï, mais c'est la crainte du vêtement quand on dit Shamaï.
C'est pour ça que nous viennent Morazaken, il ramène du Zohar.
Pas Yirat Hashem, on dit la crainte du vêtement.
Bien sûr, parce que nous, en vérité, quand on craint les vêtements parce qu'on sait que derrière les vêtements, il y a quelqu'un. Mais dans les faits, on ne perçoit pas la personne. Non,
enfin, la façon dont on parle, on devrait dire Yirat Hashem, pas Yirat Shamaï. Alors c'est une expression qu'on reprend.
On dit les deux, Yirat Hashem, Yirat Shamaï.
On dit aussi Yirat Shamaï.
Parce que même si c'est Yirat Shamaï, même si c'est la crainte du ciel, on a la crainte du ciel parce qu'on sait qu'il y a Hashem derrière, comme on a expliqué dans le chapitre précédent.
C'est quand même.
D'accord. Mais ça veut dire même si j'ai la crainte du vêtement, c'est-à-dire j'ai la crainte du ciel en sachant que derrière le ciel se cache Akadosh Baruch, donc en vérité je crains Dieu. Mais dans les faits, Dieu, je n'arrive pas à le percevoir, donc je ne peux pas le craindre. il n'y a que les tzadikim, ça il va le dire tout de suite, et que les tzadikim, qui eux, ils ont un niveau, d'accord, que eux, c'est un cadeau du ciel, ça on peut pas arriver tout seul, que Dieu leur donne un cadeau du ciel, qu'ils ont la possibilité d'avoir la crainte non pas des vêtements de Dieu, c'est-à-dire non pas du décor, mais de Dieu en personne. Ça c'est quelque chose que tout seul on peut pas y arriver.
Quel genre de crainte qu'on a de 13 ans à 20 ans? De 13 ans à 20 ans, on n'est pas... On n'a pas de punition.
Chamaï.
On a la crainte de...
Sur terre, il y a...
T'as vu, on n'a pas de punition, puis des chamaïs, puis des chelma, là.
Voilà, bon ben, ok, mais c'est le matin, on ne voit pas ce que c'est la rue.
Ah, il y a quand même.
C'est la crainte de la punition, c'est l'habitude, on est habitué à ne pas fauter, et on espère...
On va pas être puni, parce que de toute façon, voilà, le truc, par exemple, de ne pas mettre les tuiles, par exemple, personne ne va te taper,
Non.
Donc, c'est quoi
parce
comme
que tu le fais
comme c'est quoi comme crainte que tu as?
Qui dit qu'il y a une crainte?
De 13 ans. Non,
tu dis il dit qu'on pense à ça, 13 ans à 20 ans. 13 ans à 20 ans,
on pense à quoi ça veut dire?
D'accord. De 13 ans à 20 ans, on pense au fait, t'as dépassé 20 ans, non? De 13 ans à 20 ans. Va au Hachem. De 13 ans à 20 ans, on réfléchit que comme on a été éduqué tout le temps, qu'on ne peut pas se comporter contre Akadosh Baruch Hu, donc on ne le fera pas. Ni la Irata Onesh.
On a senti que les sens m'arrivaient.
Ouais.
De 13 ans à 20 ans, on peut avoir cette deuxième ira là, qui dit que ça ne fait pas défauter.
Tu auras peur de quelqu'un d'autre.
Mais bon.
Tu auras la patronne après.
Donc il dit comme ça. Il dit, Afal Piken quand même. Donc quelle ligne je suis, je sais pas quelle ligne je suis.
Après il y a la crainte de la patronne.
Non, c'est pas la crainte de la patronne.
C'est quoi? C'est la patronne dedans.
Afal Piken. C'est le vêtement.
C'est l'outil. Mais il est coupant.
Afal Piken quand même. Nikra Irazo Ira Ritsonit, quand même. Cette crainte-là est appelée une crainte ritsonit, ça veut dire une crainte, même si j'ai la crainte, pas la crainte du policier. La crainte que je me dis, c'est un beau musée, ça se fait pas de cracher, c'est appelé quand même une crainte qui est extérieure. Ve tata est une crainte de bas niveau. Mais achar, shenim shechet meolamot, shem levushim shel akadosh baruch hu. Puis ce n'est pas une crainte d'akadosh baruch hu. C'est une crainte des mondes. Shem levushim shel melech akadosh baruch hu, qui sont les vêtements de Dieu. Alors bien sûr qu'on sait que derrière les vêtements, il y a un roi. Mais dans le fait, moi, qu'est-ce que je m'imagine dans ma tête? Qu'est-ce que je vois dans ma tête?
Ma conscience, elle est sur les
vêtements. Ma conscience,
elle
est sur les vêtements. Je peux pas aller plus loin. Mon cerveau n'est pas conçu pour aller plus loin. Asher mistater, d'accord? Shem levushim shel melech akadosh baruch hu. Asher mistater umitalem umitlavesh bahem lachavutam ulekamim yot eshmaim. Je sais que, bien entendu, qui c'est qui maintient ces vêtements-là, c'est le roi. Pas de problème. D'accord? Y a pas de problème. 100%. Mais, dans les faits, moi, dans ma conscience, je ne vois que les vêtements. Donc, ça s'appelle toujours pas une ira. Ça s'appelle toujours pas une ira, il a une crainte.
On a que la conscience et que la transcendance.
Rak seulement. Chez Yasha, vers Pétar, les Kumatora Mitzvot. Ça veut dire, nous dit Edmond Razaken, quoi qu'il en soit, les deux types de craintes que je viens de dire ici, ça veut dire la crainte du policier ou la crainte que ça ne se fait pas, de cracher ici, ça ne se fait pas, de manquer du Kavad HaKadosh, pourquoi le monde est tellement beau. C'est Iratata. Pourquoi c'est Iratata? Alors encore une fois, on me donne Edmond Razaken en une ligne, la définition de Iratata. Iratata, c'est ce qui est le moteur pour accomplir notre mitzvot. Et c'est pour ça que d'ailleurs, selon Maïmonide, la Iratata Hashem n'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. La Yirat Hashem, c'est une mitzvah, bien sûr c'est une mitzvah, mais c'est pas une mitzvah qui fait partie des 613 mitzvot.
C'est un fioul.
Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah à part entière, c'est pas une mitzvah à part. C'est une mitzvah qui nous aide à arriver à d'autres mitzvot.
C'est un objectif, d'accord, un objectif ou un instrument?
C'est un instrument, c'est un moyen.
Un fioul, c'est le fioul.
Ça c'est la Yiratata. La Yiratata, la définition en un mot de Yiratata, c'est le moteur. Le moteur pour pouvoir accomplir le judaïsme comme il faut, ne pas accomplir les mitzvot positives, les négatives, et accomplir les mitzvot positives. C'est uniquement un moteur qui va me booster, d'accord, qui va me retenir et qui va me booster. Donc vous avez dit, conscience, c'est pas transcendance, c'est ça? D'accord. Bon. Les kumatorah mitzvot. Ah, mais... Ah, iraïla. Mais d'un autre côté, on a... Iraïla, chazak. Ah, on va au Hashem, il y en a qui n'ont pas besoin de dates. Ah, seulement, Aïr, Aïla, Yereboshet, d'un autre côté, mais ça, on va l'expliquer qu'en quelques lignes. Je vais l'expliquer parce que bon, c'est pas vraiment pour nous. C'est quoi la crainte? Au moins qu'on sache qu'on rate. D'accord?
C'est ça.
On peut comprendre au moins ce qu'ils ont.
Prochain épisode.
Ah, Aïr, Aïla, Yereboshet. C'est quoi la Aïr, Aïla? La crainte, donc la crainte suprême, qui est appelée aussi Yereboshet. Yereboshet, ça veut dire la crainte de la honte. Alors, la crainte de la honte, d'accord, l'Admor HaZaken dans son livre Or HaTorah, il explique que dans Boshet, c'est la même composition du mot Tachev. Ça veut dire, c'est la crainte de la Teshuvah. Même les tzadikim font Teshuvah. que c'est comme le Mourazaken, il ramène ce qui est écrit dans le Zohar. C'est écrit que quand Akadosh Baruch Hu, quand ma chère veut venir, Akadosh Baruch Hu va ramener les Tzadikim Bitshuva. Nous, on s'imagine toujours que Bitshuva, ça veut dire quoi? Bitshuva, ça veut dire, ils vont faire Tshuva sur leur Averot, mais forcément, ils n'ont pas fait d'Averot. Maintenant, je comprends que les Tzadikim font Tshuva. Ils font Tshuva sur l'Averot du peuple, du Israël. Mais quand ma chère veut venir, quelle Tshuva ils vont faire? Et le Zohar explique que c'est de quel Tshuva on parle ici. On parle, Tshuva, il faut comprendre dans le sens de retour vers Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le rabbi explique que Tshuva, c'est un des mots qui ne se traduit pas vraiment. Que la traduction qu'on donne en français, en français et en anglais, dans les autres langues à part l'hébreu, est une mauvaise traduction. D'accord ? Teshuva, on traduit par comment ? Repentance, repentir. Alors que c'est pas ça du tout. La vraie traduction de Teshuva, c'est le retour. C'est pas du tout la même chose. Quand repentir et retour, c'est pas du tout la même chose. C'est deux sens complètement différents. Ah, puis pareil, sinon, Yitzhak, avant Rosh Hashanah, il explique la même chose sur Tzedaka. Tzedaka, on traduit par charité. C'est aussi un charité, ça veut dire quoi? On fait des œuvres charitables. C'est une mauvaise traduction.
Charity.
D'accord?
Charity.
D'accord? Charity. Pourquoi? Parce que tzedaka en hébreu, ça veut dire quoi? Justice. C'est le fait de donner la tzedaka à quelqu'un, c'est pas de la charité, des œuvres charitables. C'est de la justice. D'accord? Pareil pour teshuva et tefila. Tefila, comment on traduit tefila en français? Prière. D'accord? Prière, c'est-à-dire moi je suis là, d'accord? Prière, je prie à Kadosh Baruch Hu, fais une prière à Kadosh Baruch Hu pour qu'il note ce que j'ai besoin. En hébreu, tefila, ça vient de quel mot? Atofel klicheres. Tofel, ça veut dire quoi? Attachement, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc encore une fois, le rabbi disait que c'est intéressant que les trois mots qui sont les mots-clés de Rosh Hashanah, on voit que la traduction qui a été donnée chez les nations, d'accord? Traduction habituelle, n'est pas la vraie traduction. Elle n'est pas fausse, mais c'est pas la vraie traduction à 100%. Oui. Bon, ça le rabbi ne le dit pas, mais... Hein, c'est vrai que le rabbi ne dit pas ça, mais je pense que c'est ça ce qu'il voulait dire. C'est que ça vient pas de chez nous. Peut-être, ça je sais pas. Le rabbi ne dit pas ça dans la Sikha. Mais c'est vrai que ça vient de chez eux. Alors, pourquoi je dis ça, Donc de la même manière, c'est quoi la Yiraïla? La Yiraïla, on a dit, c'est Yer et Bochette, on revient à notre sujet. C'est Yer et Bochette, c'est la crainte de la honte. On a dit que dans Bochette, ça vient aussi du mot Tachev. Ça veut dire que c'est la crainte de la Teshuva, que les Tzadikim y retournent constamment vers Kadosh Baruch. Alors c'est quoi cette crainte-là? Moins qu'on sache qu'on rate. Ira Pnimit. C'est une crainte profonde. C'est pas une crainte extérieure. Shehi Nimshechet, mi Pnimit a Elokut Shibetocha Olamot. J'ai pas la crainte du décor, du vêtement de Dieu, qui est représenté par le monde, par notre monde, par les malachim, par tout ce que vous voulez. On peut avoir même la crainte parce qu'on s'imagine les malachim sont tellement grands, j'ai peur. Oh, Alva qu'on arrive déjà à ce niveau-là. Ça, c'est la crainte, la iratata de haut niveau. Non, c'est pas ça Iraïla. Iraïla, la crainte suprême, c'est que je ne pense pas du tout aux vêtements, au décor. Je pense à ce qu'il y a derrière le décor. Allez, sur cette ira-là, on a dit, imen trochma en ira. Sur cette crainte, on dit, s'il n'y a pas de trochma, il n'y a pas de ira. Ça veut dire comme ça. Première étape, c'est la ira de bas niveau. Qui dit qu'on doit comprendre, qu'on doit réaliser que c'est pas de la blague, c'est du sérieux. Et ça, une fois que je réalise que c'est du sérieux, c'est le passe-partout pour arriver à trochma. D'accord? On expliquera après ce que ça veut dire trochma. Il expliquera que trochma, c'est un rapport avec l'amour. Ah, il a expliqué juste dans la suite du Pérec. Ça, je pense pas qu'on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc, imanira en chorma. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de chorma. On expliquera après pour quel rapport entre chorma et l'amour. Ensuite, une fois que je suis arrivé à ce niveau-là d'amour envers Akadosh Baruch Hu, si je suis tzadik, alors là, on te dit, imen chorma en ira. S'il n'y a pas ce niveau de chorma, tu ne pourras pas arriver au ira suivant, qui est la ira des tzadikim, la ira de haut niveau. Alors, il explique. Des chorma, i koarma. D'accord? Oui, on l'a déjà dit, je voulais pas trop développer Shabbat. Des chokhma.
C'est bon, on est foutu.
Des chokhma, i koachma. C'est quoi chokhma? Chokhma, c'est koachma, ça veut dire la force du quoi. Ça veut dire quoi? Ma, c'est synonyme de anava, synonyme d'humilité. Comme on voit que Moshe Rabbeinu et Aaron, quand, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, venachnu ma. Nous, qu'est-ce qu'on est devant Akadosh Baruch Hu? Et ça, c'est la chokhma. Dans la logique, d'accord, quand on réfléchit, on a deux stades. On a le stade de la chorma et le stade de la bina. Le stade dans lequel on est en train de réfléchir et d'essayer de comprendre les détails et de voir comment le texte nous parle, là on est déjà dans bina. C'est quoi chorma? Vous devez vous rappeler certainement, on a étudié ça dans le premier chapitre. Chorma, on a dit, c'est le flash. C'est l'instant dans lequel je suis bloqué et à un moment il y a un déclic. Pac, j'ai compris. À quel moment peut intervenir le déclic? Le déclic peut intervenir que si je me suis annulé au texte. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends conscience que le texte a quelque chose à m'apprendre. pas que je vais faire parler le texte comme moi j'ai envie. C'est très souvent on lit un texte et on a envie de faire parler le texte comme on aimerait que le texte dise. Ouais, ça nous arrive. Ça c'est pas de la chokhma. C'est quoi chokhma? C'est quand on s'annule au texte. S'annuler au texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre que j'ai quelque chose à apprendre. C'est pour ça que les enfants, ils ont la possibilité de comprendre les choses beaucoup plus facilement que les adultes. Parce qu'un enfant, par nature, d'accord, même s'il n'est pas toujours annulé, mais en tout cas, il a plus de soumission qu'un adulte. Parce qu'il sait qu'il a tout à apprendre. Et c'est pour ça que l'enfant, comme tout est nouveau pour lui, quand c'est nouveau, ce qui est nouveau, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre, il apprend très très vite. Pourquoi nous, les adultes, on a du mal à apprendre? Parce que dès qu'on commence à nous expliquer quelque chose, tout de suite, on va essayer de comparer ça avec ce qu'on connaît et d'essayer de croire qu'on a compris, alors qu'on n'a pas forcément compris. D'accord? Je dis ça et j'ai compris, j'ai plus besoin que tu continues à m'expliquer. Et c'est vrai, on croit avoir compris. Et on peut comprendre certaines choses. Mais c'est pas ça, chorma. Chorma, c'est quand on s'annule. C'est quand on s'annule entièrement. Quand on s'annule entièrement au texte. On essaye de voir qu'est-ce que le texte a envie de nous dire. Alors. De chorma, iko chorma. Ve chorma, me aïn, timate. Il y a aussi un verset dans Iov, dans Job, qui dit que ve chorma, me aïn, timate. Que la chorma proviendra du haïn. Ça veut dire quoi le haïn? Du néant. Ça veut dire que pour que le verre se remplisse, il faut le vider d'abord. Il faut d'abord faire le vide dans sa tête. Si tu veux comprendre une nouvelle idée, il faut d'abord faire le vide dans ta tête. Vous savez, des fois, comme par exemple, on est en train de... Ça nous arrive des fois quand on est en train d'étudier un texte, une Gemara, par exemple, ou un texte. Et dans le premier passage du texte, on croit avoir compris. Et après, on repasse le texte. Et tout de suite... Puisque je crois déjà avoir compris, donc dès que je repasse le texte, bah tout de suite il y a mon cerveau qui dit bon, on a déjà compris, donc il dit c'est bon. Donc je vais recommencer à réfléchir à ce que je crois avoir déjà compris. Et je vais m'arrêter ici. C'est pas ça, chorma. Chorma, c'est quand je vais essayer de me dire peut-être que j'ai pas compris ce que le texte va me dire. Je vais relire le texte comme si que je n'ai pas compris. Peut-être que je n'ai pas compris. C'est ça une vraie chazara. C'est je relis le texte comme si que j'ai pas compris. Je relis le texte, je relis les mots, je vois qu'est-ce que le mot va m'apprendre. Et c'est là que très souvent on va découvrir qu'en réalité le texte voulait dire carrément autre chose. Pas du tout ce qu'on a compris. Pas du tout ce qu'on croyait avoir compris pendant le shiur. C'est pour ça que la chazara est très importante. Veizeu chacham aroet anolad. Encore un troisième texte. D'accord. Veizeu chacham aroet anolad. C'est qui le chacham? D'accord. C'est quoi le chacham? Aroet anolad. Donc le chacham, nous dit la Gemara Tamid, c'est aroet anolad, c'est celui qui voit le futur. Alors, on connaît le sens simple de cette Gemara, d'accord, de cette expression, qui nous dit que c'est qui le Chacham? C'est celui qui anticipe. Eh bien, bon, ça c'est le sens simple. Dilat Morazaken, selon ce qu'on a expliqué, on va avoir encore un deuxième sens. Et Zeu Chacham, c'est qui le Chacham? Aroet Anolad, c'est celui qui voit comment l'idée va naître. Naître. Qui dit naître, ça veut dire quoi, Dilat Morazaken? Cher Pirouche, ça veut dire Cheroe Koldavar. Il va voir chaque chose, Ernolad Venitave Maïn Liesh. Il va voir comment la chose va démarrer de 0 à 1, pas de 1 à 1. Parce qu'après, une fois qu'on a déjà compris quelque chose, on va faire des parallèles. Comme Julien, il va au Hachem, il nous fait souvent des parallèles. Là, c'est du 1 à 1. D'accord? Ça, c'est autre chose. C'est pas ça, Chochma. Ça, c'est du Bina, ça. Du Bina, c'est de faire des parallèles. Chochma, c'est pas ça. Chochma, c'est 0 à 1. C'est comprendre que je dois passer par le stade 0. Et là, une fois que je passe par le stade 0, et Zéo Chacham, c'est qui le vrai Chacham? Pas celui qui croit avoir tout compris. Aroet Anolad, celui qui voit comment l'idée va naître, comment quand je vais étudier la Gemara, quand je vais étudier un texte, je vais étudier comme si que je n'ai jamais rien étudié de ma vie. Ça, c'est un vrai Chacham. Moi, je sais que tout comme c'est écrit.
C'est temps de s'annuler, en fait.
Bien sûr, c'est clair.
Ça n'est que de l'annulation.
Il n'y a pas un Chochma, une Bina, une Bina, un Chochma?
Non, on va expliquer que Chochma, c'est
un... Il n'y a pas ça dans Mishnah?
Il mène, oui.
Il mène Chochma, une Bima, une Bina, et une Bina, une Chochma. Il n'y a pas ça aussi?
Je ne me rappelle pas. Ça ne me dit rien, peut-être qu'il y a...
Il y a une Chochma, une Dara, c'est pas Bina?
Peut-être, mais je ne me rappelle pas. Je ne pense pas. Hein,
Non, je ne sais pas.
Il dit Ilazot, donc on va juste conclure les quelques lignes pour expliquer qu'est-ce que c'est la Yiraïla, pour expliquer ce qu'on rate. Donc Ilazot, c'est pour ça. Donc c'est quoi la Yiraïla? La Yiraïla, donc ça veut dire comme ça. Imen Chochma en Ira. Maintenant on va comprendre. On recommence. Imen Ira, s'il n'y a pas la première Ira, c'est quoi la première Ira? Ça veut dire le fait, le date, réaliser que c'est concret, c'est pas de la blague qu'on est en train de te dire. Dans ce cas-là, tu ne pourras pas arriver au Chochma qui est après. C'est quoi le Chochma? Ça correspond à la Amida, rappelez-vous. S'il n'y a pas de schéma, il ne pourra pas avoir la Amida. S'il n'y a pas de schéma, en d'autres termes, c'est-à-dire s'il n'y a pas la soumission, le Da'at, tu ne pourras pas arriver par derrière à l'annulation devant un Kadosh Baruch Hu. L'annulation ne peut venir seulement si d'abord tu as eu la soumission. Mais une fois que j'ai eu l'annulation à Kadosh Baruch Hu, là, si je n'ai pas cette annulation-là, je n'aurais pas pu arriver au niveau de Hira qui suit. C'est quoi le niveau de Hira qui suit? C'est la Hira des Tzadikim. Dans les mots, Veyi Lazot, Hashamayim Ve'aret V'chol Tzva'am, Betelim Imtziut Mamash, Bidvar Hashem Ve'ro Arpiv, Uklo Mamash Chashivim. Donc là, on parle de quelqu'un, d'abord, il s'est entièrement, d'abord c'est quelqu'un qui est complètement soumis à Kadosh Baruch Hu, qui a compris que c'est pas de la blague. Ensuite, il s'est complètement annulé devant Kadosh Baruch Hu. Et là, une fois qu'il réalise ça, il réalise que tout ça en vérité, c'est rien devant Kadosh Baruch Hu. T'es bitul or vezi vashemesh, begouf vashemesh atzma, v'al yotzi adam atzmo me'aklash, gam goufo ve'nafsho ve'rucho ve'nishmato, v'telim imtiu b'dvar Hashem, v'diboro idvar miyuchad v'marchato chule. C'est-à-dire que là, ça c'est un niveau en vérité qu'il n'y a que le tzadik qui peut avoir ce niveau-là. C'est un niveau dans lequel la personne réalise qu'en vérité il ne vaut rien. Pas seulement qu'il est soumis à Dieu, pas seulement qu'il est annulé à Dieu, mais il réalise qu'en vérité toute sa vie c'est comme une histoire. Vous savez, il y a des penseurs juifs qui pensent, bon, la halakha n'est pas comme eux, mais il y en a qui pensent que, enfin la halakha, on dit pas comme aujourd'hui, mais il y avait des penseurs juifs qui étaient contemporains de l'époque de Maïmonide, qui disaient qu'il est fort possible, ceux qui ont vu, j'ai entendu qu'il y a un film qui s'appelle Matrix, dans lequel, qu'il est fort possible que notre monde est un sipour, notre monde est une histoire. Et qui dit histoire, ça veut dire quoi? Imaginez-vous que je vous raconte une histoire. Donc, les premières minutes de l'histoire, je vais vous mettre dans le bain. Et après, notre imagination est en plein dedans. Ça veut dire, on s'imagine, si on sait bien raconter l'histoire, d'accord, à la Monsieur Bismuth, par exemple, on va se sentir en plein dedans. Je le sens vraiment en plein dedans. Et après, l'histoire se finit. Et qu'est-ce qui se passe une fois que l'histoire se finit? Qu'est-ce qu'on fait? On va se dégourdir, d'accord? On va se dégourdir comme les gens ils font des fois après un film, d'accord? Ils vont se dégourdir, c'est là dans lequel ils vont réaliser qu'en vérité, c'était un film, tout ça. C'était un film. Il y en a qui disent c'est la même chose, que notre monde est en vérité un film. Il y en a eu un autre et il pourra en avoir d'autres. Alors aujourd'hui, dans les faits, les penseurs juifs d'aujourd'hui ne pensent plus comme ça. Depuis Maïmonide déjà, ça a été annulé. Ils disent que non, le monde d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des mondes avant, selon la Kabbalah, c'est possible, mais le monde d'aujourd'hui est une réalité. Donc Matrix, c'est faux. D'accord ? On m'a raconté, je l'ai pas vu, mais on m'a raconté, apparemment, c'est... On nous montre comment tout le monde est une...
C'est pas mal.
D'accord ? Bon.
C'est pas mal.
C'est...
Même à la fin.
Bon. Alors, donc c'est quoi ?
Non, c'est à la fin, on leur dit métagique.
D'accord. Donc une fois qu'on a fini d'écouter l'histoire, une fois qu'on a fini de voir le film, c'est là qu'on va se dégourdir, et on va dire, en vérité, c'est là, on va dire, en vérité, tout ça, c'était une histoire. Ça, c'est le niveau auquel le tzadik arrive. Le tzadik, il dit, même si moi, je suis dans une réalité, et je me sens, et je sens ceux qui sont autour de moi, mais le tzadik, il a le même sentiment que nous, on va avoir après qu'on nous a raconté une histoire. Il va se dire, en vérité, tout ce que j'ai autour de moi, c'est comme une histoire. Ça veut dire que, pour un Kadosh Baruch Hu, c'est une histoire. En vérité, ça n'existe que virtuellement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le tzadik, il a, là, c'est un niveau d'annulation qui est très fort. Parce que nous, le plus haut niveau d'annulation qu'on peut atteindre, c'est de dire, c'est réel, mais en vérité, il y a toujours plus fort que nous. Plus fort. Mais, moi, je suis peut-être 0,1 à la fin, d'accord? Mais, je suis quand même quelque chose. J'ai quelque chose. Le tzadik, il va arriver à un niveau d'annulation tellement grand à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si, que pour lui, c'est comme si c'était une histoire. Le même sentiment qu'on a quand on a une histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas attendre de nous-mêmes. Impossible. De nous-mêmes, on peut pas, parce que de nous-mêmes, on a notre existence, on sent notre existence. T'as beau me dire, je suis rien, je suis un microbe, et même un microbe, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. C'est pas néant. Le tzadik, dans sa tête, il dit, tout ça, c'est une histoire.
Mais si tous les jours, tu viens de dire, bah, tout ça, c'est rien,
et depuis que tu peux devenir fou aussi. Oui. Mais on a quelque chose, même si on est un microbe, on est quelque chose. Le tzadik, pour lui, c'est comme une histoire. C'est comme, je dis, c'est exactement comme une personne, après le film, il se dégourdit, et c'est là qu'il dit, bon, c'était un film. D'accord ? Il revient à la réalité. Le tzadik, Razak, super définition. Le tzadik, il revient à la réalité. Pour lui, la réalité, c'est Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas comprendre, c'est impossible de comprendre. Au moins, on sait ce qu'on rate. Peut-être ça aurait été mieux de ne pas le savoir. Alors, Barichut Bderech Machal Minefesh Adam, c'est-à-dire le tzadik, vous voyez, imaginez-vous qu'un jour il y a un etzara qui vient, il n'a pas d'etzara, mais disons qu'un jour l'etzara vient, il embête, il fait chut, allez, Matrix, tu sors d'ici, d'accord, l'histoire est finie. Il n'a pas dit, c'est fini, c'est une histoire. C'est fini, il dégourdit, c'est fini. Vezeu Shekatou, mais ça ce qui est écrit, En Irat Hashem Ichochma. D'accord? Que c'est la Irat Hashem qui va amener la Chochma. Ach, et on conclut avec ça, Iefchar, Leasig, d'accord? Le ira ve chokhmazo ela be kiyum a Torah ve a mitzvot al yedei iratata achitsonit ve zehu shekatuv imen ira en chokhma. Mais nous dit l'Admor HaZaken, même le tzadik, on n'a jamais un tzadik né. C'est-à-dire un tzadik directement depuis qu'il naît, pour lui le monde c'est comme une histoire, ça n'existe pas. Le tzadik doit passer d'abord par les stades comme tout le monde. Quand il fait la queue comme tout le monde. Ça veut dire, tout d'abord, il va passer par le stade dans lequel il va réaliser que Dat, que c'est pas de la blague. Donc il prend le passe-partout. Après, il va s'annuler à Dieu. Soumission, puis annulation. C'est seulement après qu'il a eu l'annulation que là, si on est sadique, on a un coup de pouce d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que l'annulation d'Akadosh Baruch Hu ne sera pas une annulation qui est imparfaite. Je sais pas comment dire en mathématiques, quand quelque chose n'est jamais néant. Vous savez, quand on divise, mais c'est quand on n'arrive jamais à zéro.
Asymptotique.
Comment on dit? Il y a
asymptotique.
Asymptotique, j'ai entendu un autre mot une fois.
Ça tombe vers un chiffre, mais
ça arrive. Ça tombe, ça n'arrive
jamais à zéro.
C'est asymptotique.
Alors. Asymptotique. D'accord. Ça veut dire que nous, notre annulation à Kadosh Baruch Hu,
un seul point.
Quelle va être la différence entre la Yiratata et Yiraïla, la crainte d'en haut et la crainte d'en bas? C'est que la crainte d'en bas, avec tout le niveau qu'on peut atteindre, ça veut dire, soit j'ai la crainte du gendarme, soit je m'imagine comment je suis petit devant Dieu. Alors, encore une fois, je m'imagine que je suis petit devant Dieu, ça je peux aller très très loin. Plus je connais, plus je réalise que je suis petit. Mais ce sera toujours une crainte qui est asymptotique. Ça veut dire quoi asymptotique? Ça veut dire que je me sentirai toujours petit, mais jamais je serai néant. Jamais.
Très
impossible.
Dur, très dur.
D'accord? C'est pas possible. Notre cerveau ne peut pas accepter ça. Je pourrais m'annuler, mais jamais à 100%. Ça sera jamais asymptotique.
Infiniment petit, c'est pas zéro.
Le tzaddik, d'accord? Lui, à un certain moment, il a un petit pouce d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un switch qui fait qu'à un certain moment, une fois qu'il a fait la queue comme tout le monde, il a fait donc les deux stades, d'accord? Il a eu la soumission à Dieu. Donc ça, c'est la ira. Ça passe partout. Et après l'annulation, là, tout d'un coup, cette annulation va devenir asymptotique, comment on dit? Asymptotique, ça veut dire...
Ah, d'accord. C'est-à-dire que là, ça va toucher.
Là, ça va être...
Zéro.
Asymptotique?
Non.
Désintégration.
Là, elle va être nulle. Là, il va se sentir
là,
vraiment comme
zéro,
nul.
Absolu.
Et là, vous comprenez que c'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas. On n'est pas du tout dans le même terrain là. Là le sadique, c'est autre chose. Si le sadique pour lui, il se sent comme annulé sur terre, il se sent comme zéro. Son Yitzhara ne peut rien faire avec lui. Qu'est-ce que c'est lui, le sadique?
Il a pas de prise.
Oui. Avec ça, on comprend quand on lui dit par exemple qu'un sadique il tue Yitzhara. C'est dur quoi, il tue Yitzhara. Pourtant, on a vu, c'est déjà arrivé qu'il y ait des sadiques que le Yitzhara est revenu. C'est arrivé. Quand on a des histoires que le Yitzhara est revenu. On pourrait expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'on tue le tzara. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzadik arrive à un niveau dans lequel tout ce qu'il y a c'est une histoire, donc c'est rien. Ça n'existe pas. C'est même pas que ça a la valeur du microbe. Ça n'existe pas. Pour le tzadik, ça n'existe pas. Comment t'as dit tout à l'heure? Ah oui, non, c'est autre chose. On va revenir à la réalité. D'accord? C'était une belle définition. Donc ça, avec ça, on comprend Imanira en Rochma, Iman Rochma en Ira. S'il n'y a pas la première crainte, s'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'annulation. Et même pour le tzadik, s'il n'y a pas de soumission et d'annulation, il n'y aura pas, d'accord, l'étape suivante qui est l'annulation parfaite. Donc avec ça, on a conclu, d'accord, avec ça, on a conclu la iratata, iraïla, la crainte du policier. Donc la définition de la iratata, en un mot, c'est que c'est une crainte, pourquoi on l'appelle la crainte d'en bas? Parce que c'est une crainte qui est là simplement pour nous booster à faire Torah et Mitzvot. Elle n'a pas de définition en soi. C'est seulement pour nous booster vers Torah et Mitzvot. Ça va être un moyen pour mieux accomplir Torah et Mitzvot. Donc, ou je peux avoir la peur du gendarme, ou je peux me sentir tout petit, comme les deux exemples qu'on a donnés avec le musée. Mais Iraïla, c'est carrément autre chose. Iraïla, c'est que je me sens tellement annulé devant un Kadosh Baruch Hu, que le tzadik, il revient à la réalité, qui dit qu'en vérité, tout ce monde que je vois autour de moi, en vérité, c'est rien du tout. Ça n'existe pas. Comme il disait une fois un Mashpia, d'accord, un Mashpia de la Yeshiva de Brunois, moi qui était Rav Nissan de Manov, il est niftar déjà il y a une trentaine d'années. Il disait que
un
mashpia, c'est
un influenceur.
D'accord, un influenceur, oui. D'accord.
Un qui opinion
un peu, c'est l'équivalent du mashgiar dans les yeshivot lituaniennes. Il disait que si il y a pour les amateurs de Matrix, on est en plein dedans. Il disait que si c'était pas écrit dans la Torah que Bereshit Bara Elohim, que au commencement Dieu crée le monde, il serait fort possible que tout notre monde est une imagination. Tout le monde, on croit qu'il y a un monde, mais rien du tout. Parce qu'on peut pas comprendre qu'il y a quelque chose qui a une existence à part Dieu. C'est pas possible. On aurait dit qu'en vérité c'est une imagination. C'est Achizat et Naïm. C'est une
illusion optique.
C'est une illusion optique, hein, comme ils font les magiciens. Une illusion optique. D'accord? Achizat et Naïm. Mais comme notre point de repère pour savoir qu'est-ce qui est la vérité, c'est la Torah. Et que la Torah nous dit que Dieu a créé le monde. Donc on est obligé de dire qu'il y a un monde.
C'est bon, c'est vrai.
Mais imaginez-vous le tzadik à quel niveau il est. Et le tzadik il a un niveau que pour lui, si la Torah ne le dit pas, pour lui il n'y a pas de réalité, c'est une histoire. Cette personne-là, plus personne ne peut rien lui faire. Et on n'est pas à ce niveau-là, on va se contenter, c'est pour ça qu'on l'a dit en quelques lignes, et que alors que pour expliquer la iratata, il nous a fallu 5 cours, nous on va se contenter à la iratata, on va essayer, Bezrat Hashem, de sentir les choses comme il faut, de réaliser que c'est pas de la blague, et une fois qu'on a ce passe-partout, tout suivra. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on commencera à développer les deux niveaux de Ahavat Hashem, de l'amour de Dieu.
Ah,